Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Si vous avez fréquenté les ciné-clubs, jadis ou naguère, l'émission qui vient réveillera en vous quelques souvenirs. Des condamnations sans appel ou des encensements du même tonneau, des « ah », des « ou ». On projette un film, deux en l'occurrence, un grand et un court-métrage. Et l'on en discute entre cinéphiles passionnés. Tout simple. Si simple que cet exercice intellectuel critique donna lieu à une émission régulière sur France Culture, « Connaître le cinéma » par Philippe Hainaut. Ce soir-là, le grand film était un film espagnol tourné par un Italien en plein franquisme. Film sans aucune tendresse, d'un point de vue destructeur, selon l'un des interlocuteurs. Le court-métrage était aussi un film espagnol, tourné par un réalisateur espagnol, mais qui ne tournait plus en Espagne. Première diffusion sur France Culture, le 23 février 1964.
La radiodiffusion télévision française présente en différé « Connaître le cinéma », une émission publique de Jean Mitry et Philippe Hainaut. Aujourd'hui, le cinéma espagnol, avec la projection de « Terre sans pain » de Luis Buñuel et de « El cochecito » de Marco Ferreri. Commentaires et débats avec la participation de Filippo Diquet, de Ado Kirou et des spectateurs du studio Parnasse.
Étudier le cinéma espagnol peut, à vrai dire, sembler une sorte de gageure, étant donné que ce cinéma est à peu près, disons-le franchement, inexistant de par le monde, inexistant tout au moins sur le plan qualitatif. En vérité, depuis une dizaine d'années, le cinéma espagnol a tout de même, grâce à quelques réalisateurs, produit des œuvres intéressantes. Mais il semble que ces réalisateurs soient considérés comme extérieur au cinéma espagnol. J'en veux seulement pour témoin le personnage de Luis Buñuel, le réalisateur espagnol le plus significatif et l'un des plus grands metteurs en scène actuels, mais qui, en Espagne, est considéré comme étranger à la production espagnole. Pour situer cette production, il serait peut-être nécessaire de dire quelques mots de son histoire. En vérité, le cinéma espagnol est à peu près aussi ancien que le cinéma français. Les premiers films espagnols ont été réalisés vers 1902 ou 1903, et au cours de cette période, on a produit en Espagne une dizaine de films qui ne laissent pas d'être intéressants pour cette époque. Le premier metteur en scène espagnol dont on peut retenir le nom s'appelle Fructuoso Gelaber. Après Gelaber, il y a eu un certain Secondo de Chaumon, mais Chaumon, après avoir tourné une dizaine de films en Espagne, s'est expatrié, et il est connu surtout pour avoir tourné en France, chez Pathé, et puis en Italie, car il était non seulement metteur en scène, mais également opérateur. Après cela, le cinéma espagnol disparaît à peu près complètement sur le plan de la production, aussi bien quantitative que qualitative. C'est seulement après la guerre de 1914 qu'on a commencé à entendre parler de nouveau du cinéma espagnol. Mais à vrai dire, tout ce qui a été fait au cours de la période du cinéma muet est assez peu intéressant. Et il s'agit bien entendu, comme toujours, de danseuses espagnoles, de gitanas, de toreros. Quand on parle de l'Espagne, on voit toujours les arènes, les toreros, les gitanas, et c'est un petit peu cet aspect pseudo-folklorique que le cinéma espagnol à exploiter pour en faire, soi-disant, une valeur commerciale exploitable à l'étranger. En fait, la plupart de ces films étaient non seulement médiocrement réalisés, mais médiocrement pensés et très médiocrement joués. La plupart d'entre eux sont donc sans intérêt, mais on peut citer parmi les metteurs en scène plus ou moins connus qui se sont produits vers la fin du muet et qui d'ailleurs se sont produits parfois en France, Benito Perojo, qui fut peut-être le plus connu des metteurs en scène du cinéma espagnol, Florian Rey, Nieves, Conte, d'autres encore qu'il serait inutile de citer, d'autant plus que leurs films non plus ne diraient rien à personne. Au début du parlant, le cinéma espagnol a de nouveau tenté de réaliser des œuvres, je ne dirais pas originales, mais des œuvres typiquement espagnoles, pour retourner de nouveau dans ce folklore artificiel et fabriqué d'une Espagne de convention. Malgré les efforts de quelques metteurs en scène, dont le plus intéressant peut-être de cette ancienne génération fut effectivement Florian Rey, car Florian Rey, qui a tourné une bonne centaine de films, n'a pas tourné que des médiocrités. On peut relever dans l'ensemble de sa production 4 ou 5 films qui sont estimables et qui témoignent d'une certaine originalité de facture. En dehors de Florian Rey et de Benito Perojo, quelques metteurs en scène se sont révélés au début du cinéma parlant, des gens comme José Buch, comme Edgar Neville, qui est surtout un auteur dramatique et qui est venu au cinéma en adaptant ses pièces à l'écran. Et puis surtout peut-être Luis Sanz de Heredia, qui a été, au cours de ces 20 dernières années, le metteur en scène officiel du cinéma espagnol. Et qui, il faut bien le dire, fut peut-être le plus intéressant de cette génération que l'on pourrait dire la génération d'arrière-garde. En fait, si l'on s'en rapporte à certaines remarques de certains critiques, on pourrait dire que le cinéma espagnol a été non seulement négligé par toute l'histoire du cinéma, et pour cause, mais il a été même méprisé parfois au-delà de ce qu'il méritait réellement. J'en veux pour mémoire cette remarque prononcée en 1955 aux rencontres de Salamanque. Le cinéma espagnol actuel est politiquement faux, socialement faux, intellectuellement infime, esthétiquement nul, industriellement rachitique. On ne peut pas prononcer de condamnation plus sévère ni plus totale. Il reste à savoir si cette condamnation est effectivement méritée. Elle le fut pendant un long moment. Mais, à vrai dire, le cinéma espagnol a essayé de sortir de ses cendres un petit peu après ou parallèlement à l'avènement de Franco. Je n'en tirerai aucune conclusion d'ordre économique ou politique, mais il est à remarquer tout de même que le franquisme a essayé de faire du cinéma espagnol, pour des raisons de propagande, il faut bien le dire, ce qui est un art national d'une certaine importance. Et depuis 1935, la moyenne de production s'est élevée de 10 à 15, 20 films par an, jusqu'à quelquefois une cinquantaine de films. Sur le plan quantitatif, donc, et sur le plan industriel, il y a eu un progrès certain. D'autant que les studios, alors très mal équipés, ont été reconstruits. Bref, le cinéma espagnol a été pourvu tout de même de moyens financiers, économiques et industriels non négligeables. Malheureusement, les metteurs en scène sont restés à peu près les mêmes. En dehors de Sanz de Heredia, de Ardavin, de Rey, de Buch, de Perojo, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, on ne peut guère en citer de bien nouveaux. Si ce n'est peut-être Antonio del Amo, José Nieves Conde, qui ont fait de temps à autre des œuvres non négligeables. Bien entendu, je passe sous silence Luis Buñuel, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoiqu'étant le metteur en scène espagnol le plus représentatif, le plus typiquement espagnol, et celui dont l'Espagne devrait s'enorgueillir, est celui qui, justement, paraît avoir toujours été rejeté par la production espagnole comme non-conformiste, ce qui est évident. Buñuel, en fait, a produit la plupart de ses films non en Espagne, mais au Mexique, et chaque fois qu'il a voulu faire des films en Espagne, il a toujours trouvé en butte à des difficultés, parfois même insurmontables. Depuis une dizaine d'années, la production espagnole a nettement changé grâce à la venue de quelques jeunes, grâce à la naissance également d'un mouvement créé par l'école de cinéma de Madrid, grâce à l'effort de quelques critiques qui, après avoir été critiques, sont devenus précisément metteurs en scène. Quand on parle du cinéma espagnol à l'heure actuelle, les seuls noms qui viennent à l'esprit sont effectivement ceux de Bardem et de Berlanga. Ce furent d'ailleurs deux amis, journalistes, critiques. Ils ont lutté eux-mêmes, tous les premiers, contre le conformisme et l'étroitesse de vue du cinéma espagnol des années 30 à 45, et ils ont contribué à le sortir de l'ornière. En fait, depuis 1950, ces hommes, d'un esprit ardent et nouveau, qui se sont inspirés parfois des leçons du néoréalisme italien, ont contribué à former un cinéma espagnol tout à fait nouveau. Je rappellerai pour mémoire des films comme « Bienvenue, Monsieur Marshall », qui est une sorte de satire réaliste, assez mordante, caustique même, et d'autres films de Berlanga comme « Calabuig », comme « Placido ». Et bien entendu, tout le monde connaît les films de Bardem. Je citerai pour mémoire « La mort d'un cycliste »,« La grande rue », »,« La vengeance », mais certainement son chef-d'œuvre est vraisemblablement « La mort d'un cycliste ». Nous n'avons pas cru devoir vous projeter ce film aujourd'hui parce qu'il est trop connu, tout le monde l'a vu et revu, et nous avons préféré vous projeter « El Cochecito », qui est une sorte de satire amère et qui est pourvu d'un humour noir assez nouveau dans le cinéma espagnol. Je dis nouveau, si l'on s'en réfère à la littérature espagnole, on s'aperçoit que cet humour noir est foncièrement espagnol. Mais il est tout à fait nouveau dans la production cinématographique espagnole parce que les films de Ferreri, comme les films de Berlanga ou de Bardem, ont apporté un souffle tout à fait inhabituel à la conventionnalité du cinéma espagnol des années 30 à 40. Aussi bien, le cinéma espagnol, qui jusqu'à présent avait été rejeté et méprisé, tenu pour négligeable, pour insignifiant, peut être maintenant pris en considération. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que cet effort semble devoir se continuer. Il y a aujourd'hui de nouveaux metteurs en scène qui sont encore inconnus chez nous et qui commencent à peine de réaliser leurs premières œuvres et qui témoignent d'un désir ardent de renverser justement toutes ces conventions dans lesquelles le cinéma s'est embourbé en Espagne pendant si longtemps. Ces jeunes espagnols témoignent d'un esprit, si vous voulez, un petit peu vindicatif, parfois même anticlérical, ce qui est assez étrange pour un pays comme l'Espagne qui est tellement ancré dans la religion et dominé par le cléricalisme, ça révèle tout de même un esprit un petit peu révolté, un peu révolutionnaire, et nous savons que c'est toujours l'esprit de révolte et de révolution qui permet en art de réaliser les œuvres les plus personnelles et les plus intéressantes.
Un vieillard, Don Anselmo, vit chez son fils, un avoué marié déjà père d'une grande fille. Il est une gêne pour tout le monde dans l'appartement et on le lui fait sentir. Sa seule joie est de retrouver son ami Luca qui est infirme. Celui-ci se paie une petite voiture à moteur pour faire des randonnées avec d'autres éclopés également motorisés. Anselmo est parfois toléré, mais pour être admis sans discussion, il lui faudrait, à lui aussi, un cochecito. Bien entendu, son fils refuse cet achat et le vieux engage les bijoux qu'il devait remettre à sa petite fille le jour de son mariage. Il peut ainsi verser un acompte sur le véhicule rêvé. Mais son fils, furieux, récupère les bijoux et fait annuler la vente. C'est ainsi que Don Anselmo se décide à empoisonner sa famille entière pour disposer librement de la fortune acquise. Quand il est arrêté, une seule question l'obsède, pourrais-je emmener en prison ma petite voiture ?
Pour discuter avec vous les deux films assez corrosifs que vous avez vus, Terre sans pain d'abord, un classique du court-métrage, et El Cochecito, un film assez typique de la récente école espagnole, nous avons demandé à nos amis Adokirou, spécialiste bien connu de Buñuel, et à Philippe Audiquet, que vous avez déjà entendu lors de l'émission polonaise, nous leur avons demandé de bien vouloir participer à notre débat et parler avec vous plus généralement du cinéma espagnol. Comme d'habitude, c'est à vous d'abord de dire quelles sont vos impressions en face de ces deux films. Que pensez-vous d'El Cochecito ? Et d'abord, aimez-vous ou n'aimez-vous pas ce film ?
Que c'est pas des artistes parce que tellement c'est naturel, c'est très bien joué et les photographies sont très belles.
Je signale que l'acteur principal José Isbert, qui joue le rôle du vieillard de Anselmo et qui est tout à fait spécialisé dans ce genre de rôle, est un des acteurs les plus populaires de l'Espagne. C'est lui qui interprète notamment le principal rôle du Bourreau, film récent de Berlanga qui représentait l'Espagne à Venise et qui est un film d'humour noir, un film de la même veine et où il joue le rôle d'un bourreau sur le point de prendre sa retraite. Monsieur là-bas.
Je crois que beaucoup de spectateurs n'ont pas très bien compris, car beaucoup ont cru que c'était un film comique. Il y a eu beaucoup d'éclats de rire qui ne s'imposaient pas.
Oui, mais c'est justement le propre de l'humour noir que d'oser faire rire avec une réalité atroce. Et par-delà, évidemment, le rire, de faire réfléchir les gens et de les amener à la contestation. On a eu souvent des réactions, n'est-ce pas, que vous n'avez pas aujourd'hui, devant El Cochecito, de gens qui sont choqués parce qu'on ne doit pas faire rire avec des sujets comme ceux-là. C'est un film sacrilège.
Ce n'est pas de la faute de l'auteur, c'est la compréhension des spectateurs qui est en cause.
Madame.
Il y a des intentions qui sont contre l'ordre actuel de ce qui se passe. On voit même, par exemple, le curé qui passe devant le pauvre type qui pleure. Enfin, il y a tout le temps des natations comme ça. C'est donc, ça a été voulu. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de pitié et que les choses ne sont pas comme elles devraient être.
Bon. Le personnage principal est un monstre, n'est-ce pas, puisqu'il empoisonne toute sa famille. Or, est-ce qu'il est antipathique ?
Non, justement, il est traité avec sympathie.
Ah.
Parce que justement, il se révolte contre ce qui existe. On prend parti pour le vieillard contre tout ce qui existe, l'ordre bourgeois.
Oui. Monsieur ?
Oh, moi, je voulais dire que je trouvais ça très mauvais,
ah.
presque aussi, pas tout à fait aussi nul que le lit conjugal, mais presque. Enfin, on sent tout à fait, j'allais dire on sent le même metteur en scène, je n'oserais pas dire ça, parce qu'il n'y a absolument pas l'ombre d'un metteur en scène nulle part dans aucun de ces deux films. Enfin, j'ai vu que c'est de là de Ferreri, mais enfin, je crois savoir à quoi m'en tenir maintenant avec lui. Enfin, d'abord, le sujet, je ne le vois pas, dans le lit conjugal non plus, c'est inexistant. Mais alors, si on veut parler de mise en scène, je veux y voir d'un peu plus près. Mais il y a une absence totale de mise en scène qui est criante. Enfin, il n'y a pas la moindre chose. Il n'y a pas trace d'invention nulle part. On a parlé tout à l'heure, au point de vue de la direction d'acteurs, on a parlé de leur naturel. Moi, je trouve qu'ils sont tous bourrés de tics. Ils sont des pantins. C'est du guignol d'un bout à l'autre. C'est pire que le pire style acteur studio. C'est bien pire.
Oui,
pas l'ombre naturelle nulle part là-dedans. Quant au sujet, encore une fois, il n'existe pas. Les mises en scène, les cadrages sont mauvais, les mouvements d'appareil sont bâclés, sont chaotiques. Enfin, quand on parlait d'un film comique, moi, je voudrais bien avoir ri, je crois être sensible à l'humour noir, mais alors pas celui-là, si c'en est un. J'ai pas ri une seule seconde, je trouve ça même sinistre, absolument. Vraiment, non, je trouve ça très, très, très mauvais.
Bon, je crois que Kirou est du même avis, alors on va lui donner tout de suite la parole.
Je suis approximativement du même avis. Évidemment, il n'y a aucune mise en scène, ça. La question ne se pose pas. La seule mise en scène qui y est, enfin, c'est qu'on voit tout le temps l'ombre de la caméra. C'est vraiment tout ce qu'il y a comme mise en scène. À part ça, je crois que c'est un film qui est exactement aux antipodes de Buñuel. On a toujours parlé de Buñuel à propos de ce film. C'est absolument faux. Parce que même prenez Terre sans pain que vous avez vu. Terre sans pain est un documentaire. Il a filmé, Buñuel filme la réalité. Et en filmant la réalité, il la dépasse. Et il fait de l'humour, et il nous fait rire avec des choses méchantes, et il nous fait prendre position. Contrairement à cela, dans le film de Ferreri invente une histoire qui, de prime abord, est extraordinaire, et il la rabaisse à une histoire quotidienne, à un fait divers banal, où rien n'est dépassé, où la réalité est plate toujours, et où il n'y a pas l'ombre d'un rêve, l'ombre d'humour, l'ombre de personnalité là-dedans.
Bon, je vois qu'il y a tout de même beaucoup de protestations, mais qu'il y a quelques spectateurs qui partagent l'avis de Ado Kirou. Je voudrais savoir ce qu'en pense Philippe Audiquet.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre ami Kirou. Je ne vois pas pourquoi il faudrait établir une comparaison entre ce film et le film de Buñuel. On connaît Buñuel et on l'apprécie énormément, mais je ne vois pas pourquoi le film de Buñuel rabaisserait ce film-là. D'autre part,
toute la critique a fait le rapprochement.
Pas moi. D'autre part, tout à l'heure, on a parlé, me semble-t-il, en termes un peu abstraits, en généralité du film « J'aurais aimé », qu'on parle en termes concrets, qu'on donne des exemples de plans précis qui soient mal cadrés, de direction d'acteurs. Il est certain qu'il y a dans ce film un côté guignol, c'est net, mais j'aurais aimé qu'on me parle plus précisément à quel moment les acteurs sont mauvais. Il semble quand même que le public ait ri. Les gens ont ri, ils ont mordu, par conséquent, il y a là quelque chose qu'il faudrait expliquer, je crois.
Bon, est-ce que monsieur, par exemple, madame, vous voudriez préciser vos critiques ?
Moi, je suis plutôt mal à l'aise. Au fond, je crois que ce film est assez efficace si on veut en faire une critique d'une certaine société, et surtout de cette chose très pénible, enfin des invalides et de la sénilité en particulier. Alors, ce film est très efficace, mais je reconnais avoir ri, c'est exact, mais je suis très gênée d'avoir ri. Et dans cela, c'est un mauvais film, en quelque sorte.
Il est mal fait, mais ce n'est pas le sujet qui vous gêne.
Non, le sujet ne me gêne pas du tout.
Audiquet ?
Je vais dire une petite vacherie à Kirou. Il dit « on voit l'ombre de la caméra », mais Buñuel, qui est un très grand cinéaste, ne se prive pas non plus de montrer quelquefois les ficelles. Et Kirou m'a fait découvrir quelque chose que je n'avais pas vu dans « Terre sans pain », en lisant son livre sur Buñuel. Il dit à un moment, on voit le commentaire dit je ne sais plus quoi à propos des chèvres, on voit la chèvre passer, on voit nettement dans le coin droit de l'écran, on voit de la fumée et visiblement on a tiré sur la chèvre pour la faire tomber pour obtenir un effet. Effet tout à fait justifié dans le film d'ailleurs, mais Buñuel n'hésite pas, honnêtement, avec probité, à montrer les ficelles. Alors s'il y a des ficelles dans le Cochecito, qui n'est pas au niveau de Buñuel, il s'entend, je ne vois pas pourquoi le film serait plus mauvais parce qu'on voit les ficelles. S'il y a une tare, elle se situe ailleurs dans ce film.
Kirou ?
Je peux répondre. Les ficelles ne me gênent pas. Si on voit l'ombre de la caméra, ça ne me gêne pas. J'ai dit simplement qu'il n'y a que ça. S'il y a ça à côté de quelque chose, ça ne me gêne pas du tout. Mais s'il n'y a que ça, je suis omnibulé par ça. Il n'y a rien d'autre à regarder sur l'écran, je regarde que ça.
Là, madame, s'il vous plaît. Madame est scandalisée.
Parce que moi, je n'ai pas vu l'ombre de la caméra, je ne suis pas habituée. Mais j'ai vu tout le reste, c'est énorme. N'est-ce pas?
Bon, les auditeurs ne savent toujours pas encore le détail du sujet et surtout son inspiration, le sens même de ce qu'ont voulu faire les auteurs. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est l'adaptation d'un roman avec la collaboration du romancier. C'est tout de même assez rare des films d'humour noir qui osent s'attaquer sur ce ton à semblable sujet. Prenez un Bertaudet par exemple. Marco Ferreri est un jeune réalisateur italien qui a fait 3 films en Espagne, c'est pas El Pisito, El Cochecito et Les Garçons, avant d'aller faire Le Lit Conjugal en Italie. Or, par rapport à un Bertaudet qu'il connaissait, il a quand même traité le sujet de la vieillesse sur un tout autre ton. Alors, qu'en pensez-vous ?
Je vais prendre la défense de Ferreri. Ah. Aussi curieux que cela paraisse. Ferreri n'est quand même pas n'importe qui. Dans ses films, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, moi je les aime pas personnellement, il y a une personnalité. Il y a une personnalité qui n'est pas cinématographique, mais il y a une personnalité quand même. C'est quelqu'un qui est assez méchant, je crois, très misogyne, qui n'a aucune tendresse, et qui regarde le monde avec une sorte d'œil, pas seulement critique, destructeur. Il touche aux choses pour montrer uniquement leur méchant côté, le mauvais côté. J'essaye d'expliquer ce qu'est Ferreri. Contrairement à Buñuel, qui est quelqu'un de très bon, dans le sens le plus noble du mot, hein, et que Buñuel montre la méchanceté avec un certain amour. Buñuel est quelqu'un qui sait haïr parce qu'il sait aimer. Ferreri, je crois qu'il sait haïr sans savoir aimer.
Madame,
je ne suis pas d'avis qu'il y ait du tout de la tendresse. De la sincérité, oui. On voit avec un œil absolument critique et un œil absolument juste la société actuelle comme elle est, et malheureusement n'est pas souvent belle. C'est tout.
Oui, madame.
Je ne vois pas précisément une critique de la société, mais de la famille, enfin, de la famille et de chaque génération dans ce film. Le vieillard égoïste qui veut absolument sa voiture, et la famille adulte qui est installée dans sa position sociale et puis qui veut marier sa fille. Puis alors les jeunes qui sont également très égoïstes. Et c'est ce coup d'œil sur chaque génération qui me semble assez atroce, enfin, sans aucune tendresse justement entre chaque personne.
Oui, mais attention, attention. Hein. D'une part, vous dites il n'y a pas de critique sociale, enfin, il me semble qu'elle est très importante parce qu'on ne fait pas que critiquer des individus, de critiquer même des types humains, les relations entre parents, enfants et petits-enfants. Je crois que le film a le courage du cynisme. Et je crois que si le film s'attaque à quelque chose, et les Espagnols y sont bien habitués, c'est à l'hypocrisie. Or, cette hypocrisie ne vaut pas seulement pour la famille, elle vaut pour toute la société. Je ne sais pas si vous faites l'addition des petites touches qui se trouvent dans le film, mais vous avez un tableau complet au fond de la société, qui n'est pas seulement d'ailleurs la société espagnole, mais une société qui repose sur un certain nombre de traditions, sur un certain nombre d'institutions que chacun feint de révérer, mais que dans l'application et dans la sincérité, on s'aperçoit que chacun est muré dans son égoïsme.
Oui, moi, je ne pense pas qu'il y ait une critique de la société. S'il y a critique de la société, c'est une critique tout à fait superficielle, c'est du genre, ce genre de critique qui fait dire à des gouvernements fascistes, regardez comme nous, on laisse parler nos gens. Il n'y a pas plus que ça, et c'est vraiment un film de bonne conscience. Il n'y a jamais une attaque profonde de la société, il y a par contre une haine contre l'être humain, et uniquement. C'est-à-dire, c'est de par ce côté-là que c'est un film qui est fait pour plaire à un régime franquiste, parce que c'est l'homme qui est rabaissé, et la société n'est jamais attaquée à fond.
Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Philippe Audiquet.
Je regrette... Tout à l'heure, j'étais d'accord avec ce que Kirou avait dit pour une large part, mais là, je ne peux pas être d'accord. Il est certain que ce n'est pas un film violent, acéré, et d'autre part chargé de tendresse, comme peut l'être un film de Buñuel. C'est un film qui me semble essentiellement méchant, mais j'y vois pour ma part, même dans une certaine superficialité, une mise en question de pas mal de choses qui se trouvent dans la société espagnole. Il y a là-dedans des dizaines de plans à intention, où Ferreri nous montre des curés, des bonnes sœurs passant avec des enfants, qui ressemblent à Pablito de sinistre mémoire. Et d'autre part, il n'est que de comparer ce film avec les films de l'ensemble de la production espagnole, et Dieu sait si nous avons eu l'occasion d'en voir dans la critique ces dernières années, notamment les séries de Joselito, etc. On fait l'apologie de la famille, de la tradition, etc. Et je ne trouve rien du tout là-dedans, au contraire, je vois tout ça mis en question.
Bon, écoutez, il n'y a vraiment aucune critique. Il y a, si vous voulez, un anticléricalisme de très bon aloi, qui est un anticléricalisme qui ne gêne personne. Toute la critique catholique a été pour le film, et c'est uniquement, je vous assure, les petits gestes de soi-disant libéralité qu'on se donne pour avoir bonne conscience. D'autre part, il est évident que Ferreri lui-même, il me l'a dit à moi-même, la personnalité cinématographique qu'il déteste le plus, c'est Buñuel.
Moi, je ne dirais pas c'est du Buñuel, je dirais c'est du Berlanga. Et pour les gens qui ont vu les deux films importants de Berlanga de ces dernières années, Placido et Le Bourreau, on s'aperçoit du propre aveu de Berlanga qu'il a choisi la voie de l'humour noir pour faire des œuvres qui sont corrosives tout en divertissant le public. Et les films sont évidemment agis, si vous voulez, par subtilité et de manière indirecte. Mais enfin, le gouvernement espagnol ne s'y est pas trompé. J'apprends que les Français ne peuvent pas le sortir pour l'instant et qu'il vient d'être censuré violemment en Espagne. Or, apparemment, c'est aussi un film de divertissement et d'humour noir.
Mais bon. Je crois qu'il faudrait revenir au sujet du problème, c'est-à-dire au film. Et la parole est au public, alors.
Je ne vois pas trop de but de ce film, parce que dans le fond, on en sort très sec. Je suis tout à fait d'avis de M. Kérou, que ce soit même ce vieillard qui très peu souvent vous émeut, il y a peut-être seulement la scène où il regarde partir sa famille en excursion, et que j'ai trouvé une scène assez jolie, même enfin bien cadrée. Enfin, peut-être.
Mais les deux amoureux.
Les deux amoureux, oui, et là, cette scène-là. Mais quand même, il ne vous aime pas profondément, et ces infirmes en particulier, dont personne n'a parlé, et qui sont un sujet important du film, sont tous montrés sous un jour presque un peu ridicule, superficiel, enfantin, et je ne pense pas que c'est ce qui caractérise des infirmes en général, qui sont des gens très profonds.
Mais est-ce que Pierre Doris cherche à vous émouvoir, par exemple? Car ça fait penser à Pierre Doris. Est-ce que Pierre Doris est méchant et déteste l'humanité?
Mais je trouve que, par exemple, Buñuel arrive justement à vous émouvoir, et souvent en montrant des gens sous un jour qui n'est pas sympathique. Mais il en reste quelque chose, en fait, qui est vrai. Tandis que là, je trouve qu'il n'y a rien de vrai dans ce film. Même l'atmosphère de cette famille, il n'y a pas un instant de pitié, de tendresse pour ce vieillard. Enfin, c'est pas pensable.
Ah, attention, si. Vous avez même la réaction, par exemple, la réaction du fils, l'avocat, qui est au fond un hypocrite, bon, tout ce que vous voulez, mais qui dit sans arrêt, tu es un fou, je vais te faire interner, mais qui ne le fait jamais. Et c'est sa femme qui, à la fin, lui dit, alors tu vas décider à le faire. Il y a quand même, attention, des degrés, hein. Et même la petite fille, bon, elle pense aux bijoux, mais enfin, elle aime aussi son grand-père. Il y a quand même des nuances. Et il y a tout de même le cas des deux amoureux qui...
Je parlais des deux amoureux, justement.
Kirou.
Des deux amoureux. Prenons le cas des deux amoureux. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un couple jeune. L'histoire tourne mal. Par qui? À cause de la fille. La fille abandonne. La misogynie qui apparaît tout de suite. Et puis, il y a un essai de raccommodage. Mais qui se termine comment? Qui se termine par une scène qui est très symbolique. La fille traîne le gars. Elle traîne. C'est horrible. Comme solution d'histoire d'amour, moi, j'ai jamais vu pire, enfin.
Chéret?
Non, là, pour une fois, je comprends pas très bien Kirou. Je crois qu'il faut s'entendre. Il y a une part à faire à la mise en scène. Elle est médiocre, on va pas y revenir. Et je pense pas que ce soit l'intérêt du film. Penser que le film est un dynamitage social, il est évident que c'est pas un dynamitage social, parce qu'il ne pouvait pas être un dynamitage social. C'est pas le sujet cherché, d'ailleurs. C'est un film qui était essentiellement une critique anti-bourgeoise de la mesquinerie. Vous ne pouvez pas demander aux gens que vous montrez ici de se comporter noblement, étant donné qu'on veut justement dénoncer leur mesquinerie.
Bon, je comprends parfaitement ça.
Kirou encore.
Il y a madame qui veut parler.
Madame.
Il me semble tout d'abord qu'il y a plusieurs critiques. Enfin, c'est peut-être très léger, mais enfin, il me semble que c'est visible. Il y a d'abord le fils, l'avocat, enfin avoué, qui désavoue son père, puisqu'il ne veut absolument pas lui venir en aide d'une façon quelconque. Il refuse également à son futur gendre de l'aider. On voit qu'il hésite à lui donner quoi que ce soit.
Il est avare.
Bon. Et alors, au sujet du jeune couple, enfin, qui se raccommode, il n'a pas d'autre solution pour la jeune fille que de traîner le jeune homme, puisque, a priori, il est sans main.
Madame!
Je trouve que M. Kérou a raison dans la scène où elle traîne son fiancé, car elle ne le traîne pas comme au début du film. Elle le tire violemment et il est presque projeté. Il y a une espèce de haine dans cette façon dont elle le tire.
Maintenant, il y a une chose quand même qu'il faut mettre au crédit de Ferreri, c'est qu'en tant que metteur en scène italien, je crois qu'il donne un film tout de même qui a le ton et un esprit terriblement espagnol. Et ça, tout de même, c'est déjà pas si mal.
Oui, eh bien, j'ajoute quand même un petit quelque chose qui a déjà été reproché à Berlanga. On reproche à El Cochecito et à Placido, par exemple, une agitation qui ne correspond pas tout à fait au tempérament espagnol et qui vient d'une espèce d'imitation de la comédie italienne par-delà le contexte espagnol. Il me semble aussi que c'est un peu sensible. Il y a des scènes d'agitation collective où on remue beaucoup les bras, on fait beaucoup de bruit. Ça évoque un petit peu, j'ai l'impression, la comédie italienne.
Mais Placido, c'est 10 fois plus italien que ça, c'est typiquement espagnol. C'est curieux, c'est qu'un metteur en scène espagnol essaie de faire du film genre populisme italien, alors qu'un italien s'adapte très bien au tempérament espagnol.
Je crois résumer l'opinion générale en disant que c'est un film qui nous a intéressés, où il y a des éléments de critique bourgeoise et de critique sociale, mais par petites touches, indirectes, que c'est surtout son sujet et son ton d'humour noir qui nous intéressent, mais que du point de vue de la mise en scène est assez impersonnelle et que le film n'est tout de même pas, en dépit de ses qualités reconnues, n'est tout de même pas une œuvre de l'importance de celle de Buñuel que nous avons vue au début et dont je crois maintenant il faudrait parler. D'accord. On pourrait peut-être donner tout de suite la parole à Kirou. Sur Terre sans pain, je crois qu'il serait intéressant que vous connaissiez un petit peu, disons, la genèse de ce film. Comment et pourquoi il a été fait? C'est Kirou, je crois, qui en France peut le mieux nous l'expliquer.
Buñuel avait déjà tourné Le Chien Andalou et L'Âge d'or et il voulait continuer dans la même voie, c'est-à-dire faire un film surréaliste, mais en se basant uniquement sur la réalité. Sur la réalité quotidienne et en essayant de la transformer, de voir dans cette réalité tout ce qui la dépasse. L'occasion lui a été donnée par un ouvrier anarchiste espagnol qui avait gagné à la loterie. Et il a dit à Buñuel, qu'il connaissait et qu'il admirait, il lui a dit « Prends tout ce que j'ai gagné à la loterie, prends-le et fais ce film » puisqu'il avait entendu Buñuel parler des Hourdes parce qu'il avait lu un livre sur les Hourdes à cette époque-là. C'est comme ça qu'il a fait son film. Il est parti à une très petite équipe, ils sont partis à trois. Ils sont baladés là-dedans. Et le reste est une question de point de vue tout le temps et de montage ensuite, de raccord avec le commentaire. Évidemment, il y a des choses qui sont plus ou moins fabriquées. C'est-à-dire que, notamment, Odiquet citait tout à l'heure le cas de la chèvre qui tombe. Il est évident qu'on a tiré pour faire tomber la chèvre. Ceci ne veut pas dire que cela ne se passe pas. Il y a des chèvres qui tombent. Mais s'il fallait attendre pendant des mois pour qu'une chèvre tombe, le film ne serait plus possible. Alors il est beaucoup plus simple de sacrifier une chèvre et d'avoir un exemple plutôt que de ne pas tourner une chose caractéristique. De la même façon, il y a des tas de choses comme ça qui sont amenées, disons, mais il n'y a jamais trahison. Il y a au contraire une prise de position à chaque moment et chaque vision d'une chose est suivi toujours du point de vue du réalisateur. Et notamment dans ce film qui est d'une cruauté extraordinaire, c'est un film qui dérange la digestion, et c'est très bien comme ça, dans ce film, il y a des moments de très très grande tendresse. Je crois qu'une des images les plus tendres que Buñuel ait jamais faites, c'est cette image de la mère avec le cadavre de l'enfant sur ses genoux, qui est une chose extraordinaire, enfin, pour moi. Alors, c'est ce qui me plaît, moi, dans le film, plus que me plaît, qui me transporte de joie à chaque fois que je le vois, c'est ce mélange de vision nette, cruelle, et de personnalité derrière ça, pleine d'amour.
Bon, il n'est peut-être pas inutile de rappeler aussi que le film a été tourné en 1932, comme on l'indique au générique, c'est-à-dire au début de la République espagnole, et qu'il s'agit d'un cas limite, même en 1932, mais les auteurs n'ont pas prétendu montrer la réalité espagnole globale de 1932. Il s'agit bien d'un cas limite, comme Aubervilliers d'Élie Lothar qui a fait la photo de ce film. Aubervilliers d'Élie Lothar n'est pas la France de 1945, bien entendu. C'est un cas limite même à cette époque. Mais enfin, ce film est, je crois, aussi très significatif de l'état d'esprit et des possibilités du cinéma espagnol de 1932. Maintenant, il importe de savoir ce que 30 ans après, vous en pensez, madame?
C'est une réalité exceptionnelle en Espagne, et c'est terrible, c'est absolument attristant, et on n'aurait pas cru qu'il pourrait exister une telle misère. Ils n'ont rien, ces gens-là. Hein. Leur malheur, en somme, est complet. On se demande comment ils peuvent vivre.
Mais est-ce qu'on se contente de montrer cette misère sans en montrer aussi les causes et les correctifs possibles?
Je ne sais pas.
Est-ce que c'est seulement la pauvreté de la nature?
Oh non!
Madame, s'il vous plaît.
On montre que l'État est tout de même arrivé jusque-là, puisqu'on leur envoie des maîtres d'école. On montre l'Église somptueuse, n'est-ce pas? Ah, alors, que fait le clergé pendant ce temps-là? Le clergé est là, on ne voit pas du tout l'effet que le clergé a sur ces pauvres gens. Quand l'enfant est mort, on ne montre pas Après, on ne montre absolument pas ce que le gouvernement fait dans ce village, à part on dit bien, mais on leur enseigne comme aux enfants civilisés, les rudiments, ils apprennent la même chose, mais c'est tout ce qu'on se contente de faire pour eux. Les hommes vont travailler, mais alors là, une fois qu'ils seraient... rien n'est prévu pour les faire travailler. Une fois qu'ils arrivent en Castille ou à Salamanque, enfin tout autour, il y a tout de même des endroits où on peut travailler, on les renvoie chez eux.
Je crois que le choc, n'est-ce pas, vient de ce que, en plein XXe siècle et en Europe, dans un pays christianisé et civilisé, on nous montre une réalité qui, au fond, nous évoque le cœur même de l'Afrique. Et les auteurs, pour souligner la violence de leurs propos, prennent justement un ton d'ethnographe, n'est-ce pas, d'ethnologue, de géographe, c'est surtout dans le commentaire, et ça nous fait bondir, car on aimerait que, de la première image à la dernière, ils nous disent « mais c'est épouvantable, ça ne peut pas durer comme ça ». Or, en réalité, ils prennent un ton apparemment très détaché, c'est le ton du constat, et ça, évidemment, ça multiplie l'effet de scandale du film, et le scandale est d'autant plus profond, comme vous le dites, que ce n'est pas du tout une région ignorée. C'est une région sur laquelle on jette un voile, mais elle n'est pas ignorée. Philippe Audiquet.
Il y a un décalage constant, ou une opposition constante entre l'image et le commentaire, cette image absolument atroce, et ce commentaire qui paraît... Je dis bien qu'il paraît un commentaire de documentaire habituel et qui souligne au contraire un tas d'effets critiques extrêmement violents sans en avoir l'air et perpétuellement. Par exemple,
la musique est très dérangeante aussi.
Mais je crois que la musique aussi, c'est une musique de Brahms, je crois.
Oui, quatrième symphonie de Brahms.
Et elle aussi, elle est là à dessein, justement pour introduire un contrepoint entre l'image et la musique. Il y a une discordance.
Je pense que ce film n'est pas tellement exceptionnel et je pense qu'en 1932, on aurait pu trouver en France des villages à peu près semblables. Dans les... Je précise. Écoutez, on aurait pu faire un film à peu près semblable en France. Dans les Alpes, il existe, n'est-ce pas, des villages de Goitreux. De Crétin, n'est-ce pas? Il existe aussi en Ariège une vallée qui s'appelle la vallée de Bedmal. Je connais bien, n'est-ce pas, étant donné que je suis ariégeois. Il y a la vallée de Bedmal, il y a quelques années encore, n'est-ce pas, des amis ont dû fuir, n'est-ce pas, parce qu'ils avaient voulu filmer des habitants. Ils avaient reçu des pierres, n'est-ce pas? Dans cette vallée, ces gens vivent dans un cercle fermé, n'est-ce pas? Et l'inceste règne aussi. Et l'on trouve, n'est-ce pas, des populations dégénérées. Ils sont très attachés, n'est-ce pas, à toute une suite de traditions montagnardes, farouches, n'est-ce pas? Et les touristes, bien souvent, sont reçus, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, à coups de pierre et à coups de bâton. Oui. Alors je pense, voyez-vous, qu'en 1932, on a pu faire un film sensiblement égal en France même.
Une dame.
Je suis très étonnée de ce que monsieur dit de la vallée de Bedmal, parce que je la connais aussi. Et j'y suis allée cet été en touriste, je m'y suis promenée à pied, en voiture. J'ai trouvé que le pays était très joli, qu'il n'était évidemment pas fertile comme la Beauce, mais enfin qu'il y avait quand même quelques possibilités d'y vivre, que ce film n'évoque absolument pas. Et quant aux pierres, nous n'en avons pas reçu.
Oui, mais enfin, monsieur disait il y a tout de même un certain temps, n'est-ce pas?
Il y a une trentaine d'années.
Il a parlé de 1932. La chose aurait été possible à la même époque. Chéret.
Oui, il n'est peut-être pas inintéressant de savoir, j'ai eu l'occasion de passer déjà plusieurs fois à l'heure sur Dès, mais la dernière fois c'était en ciné-club, il y a juste quelques semaines, et nous avons eu la bonne fortune d'avoir des journalistes espagnols qui, connaissant le film, avaient eu la curiosité de retourner il y a à peine 2 ans sur Dès avec des journalistes français. Et je peux vous affirmer qu'il y a bien une route qui arrive jusqu'à l'Alberca, qui est le grand village qui est en bas, qui a été, pour les besoins de la cause, évidemment ouverte. Mais de l'Alberca et jusqu'au Urdès même, aux villages qui sont disséminés dans, n'est-ce pas, sur le plateau, ça n'a absolument pas changé depuis l'époque où Buñuel a tourné le film.
Si, il y a 3 églises de plus.
Il est peut-être temps de revenir à notre thème, c'est-à-dire à l'ensemble du cinéma espagnol dont nous avons essayé de montrer certaines tendances à travers ces 2 films assez importants.
Bon, je vais dire,
Kirou,
il ne faut jamais essayer de juger un cinéma détaché de son contexte. On ne peut pas juger le cinéma espagnol en oubliant que l'Espagne vit sous un régime fasciste. Il est donc impossible de vouloir faire une critique objective du cinéma espagnol. Le cinéma espagnol n'existe pas. Il y a eu un seul film qui dépassait enfin le cadre du cinéma espagnol, c'est Viridiana, qui a été tourné en Espagne. On sait le malheur que le film a eu. Donc, je crois qu'il faudrait attendre quelques années avant de pouvoir parler de cinéma espagnol.
Bon, Philippe Audiquet.
Je suis pas, encore une fois, je le déplore, je suis pas tout à fait d'accord avec Kirou, mais depuis une dizaine d'années, notamment avec le groupe Bardem-Berlanga et avec les revues qu'ils ont fondées d'autre part, il y a un mouvement qui se dessine. Et il m'a été personnellement donné récemment de revoir certains films de Bardem, et j'ai trouvé que ces films tenaient le coup effectivement, et qu'il est bien dommage qu'une certaine critique les ait systématiquement démolis. C'est un fait regrettable. Par ailleurs, il y a aussi les films de Berlanga qui ne sont pas à négliger, et d'autres films de jeunes réalisateurs qu'on a peu vus en France, mais qui sont extrêmement intéressants. Ceci, bien entendu, est un cas tout à fait limité, car ailleurs, et d'autre part, on a une production de type cosmopolite, sans vraie nationalité. Vous avez un film, par exemple, qui s'appelle Scaramouche, que vous pouvez voir sur les écrans actuellement. C'est un film qui n'a aucun caractère national. Il y a des capitaux allemands, italiens et espagnols. Il n'y a aucun caractère national. C'est rien. C'est rien, c'est le néant créé à la suite du fascisme en Espagne.
Je crois qu'il faut élargir ce que viennent dire Kirou et Filippo Dicquel, élargir et le préciser. Depuis le triomphe du régime actuel en Espagne, il y a eu un essor économique et technique du cinéma espagnol. Sur le plan matériel, il a développé sa production. Mais c'est au prix d'une sclérose sur le plan de l'esprit, et tout le problème intérieur, vous le savez, c'est un problème de censure au fond. Censure économique, censure politique, censure religieuse. D'autre part, Filippo Dicquel a mis le doigt sur une plaie très vive de ce cinéma, c'est que dans la perspective du marché commun, et par l'utilisation des coproductions, ce cinéma se dénationalise, si vous voulez. Il perd son caractère authentiquement espagnol. Et pour faciliter les exportations, il joue essentiellement sur le folklore, c'est-à-dire qu'il donne de l'Espagne une vision un peu d'Image d'Épinal, un peu caricaturale, et qui justement scandalise les intellectuels et les artistes authentiquement espagnols. Quand en Espagne, on veut faire un autre cinéma, un cinéma de qualité, c'est tout de suite contre ce cinéma qu'on proteste, ce cinéma des Joselito, des Gitanes, des Toreros.
Je vais citer quelque chose que me disait Buñuel il y a quelques jours. On discutait avec Buñuel sur le cinéma justement en Espagne. Alors, à certains moments, un régime fasciste a besoin de se montrer libéral. Ça fait partie d'une politique générale. Cette politique générale, qui ne change rien évidemment au fond du régime, a voulu se manifester dans le cinéma aussi. Et notamment, ils ont commencé par donner une certaine liberté à des films étrangers qui étaient drôlement censurés, ou qui étaient coupés, ou qui étaient complètement dénaturés. Notamment sur des films américains. C'est pas très méchant, vous voyez. Mais ils ont oublié une chose, ils ont oublié que depuis tant d'années, ils ont créé, ils ont formé leur public. Et c'est leur public qui n'accepte plus la libéralité. Et que le gouvernement, chaque fois qu'il a essayé de laisser passer une chose qui pouvait sembler légèrement osée, s'est vu attaquer par des milliers, des centaines de milliers de lettres, de lecteurs, de braves petits bourgeois qui sont formés et qui sont complètement pourris maintenant.
Bon, il serait intéressant tout de même de savoir ce que la salle pense de toutes ces prises de position et, encore une fois, du cinéma espagnol en général, au-delà même de ces deux films. Madame.
Pour moi, il n'y a qu'un réalisateur, qu'un metteur en scène qui représente le cinéma espagnol, hélas, il en est éloigné, c'est Buñuel, profondément original, émouvant, et qui reste humain, comme le disait M. Kirou tout à l'heure. C'est pas ce que nous n'avons pas trouvé dans cette œuvre, dans le grand film. Tandis que Buñuel, malgré tous ses sarcasmes souvent, reste magnifiquement humain et émouvant.
Bon, on pourra alors peut-être terminer en évoquant un aspect typique du cinéma espagnol. On dit très souvent, le cinéma espagnol n'est pas espagnol, c'est-à-dire qu'il a été fait par des émigrés ou des étrangers. Il est important peut-être de rappeler que de 1932 à 1939, et surtout pendant la guerre civile, un certain nombre d'étrangers, cinéastes, journalistes, militants de certains partis, sont allés tourner en Espagne. Et vous connaissez le film très important de M. André Malraux, Espoir. D'autre part, les grands auteurs dont nous avons parlé, surtout Buñuel, ont fait leur carrière essentiellement à l'étranger. Et il faut rappeler que Buñuel n'est pas le seul. Il y a notamment un très grand producteur de films réfugié au Mexique, Carlos Velo, qui a patronné le très beau film qui s'appelle Racine et qui a tourné Toro. Il y a des scénaristes, des musiciens de films qui ont souvent émigrer en France ou en Amérique latine.
Pitaluga,
par exemple. Nous aurons certainement l'occasion d'évoquer le cas de ces émigrés. Donc n'oublions pas les films réalisés sur l'Espagne. Et pas seulement en Espagne, je cite tout de même un film qui, je crois, est très important, c'est Mourir à Madrid, qui est un film français, fait récemment à partir d'archives et de quelques documents tournés sur place, un peu à la sauvette. Mourir à Madrid est tout de même, si vous voulez, à inclure dans une sorte de post-scriptum au cinéma espagnol. Et j'ajoute un dernier mot, le tourisme se développe beaucoup en Espagne et j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de films remarquables et très généreux faits par des touristes français en Espagne.
La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter en différé « Connaître le cinéma », une émission publique de Jean Mitry et Philippe Hénaud. Aujourd'hui, le cinéma espagnol, avec la projection de « Terre sans pain » de Louise Buñuel et de « El Cochecito » de Marco Ferreri. Commentaires et débats avec la participation de Philippe Audiquet, de Ado Kirou et des spectateurs du studio Parnasse, assistante de réalisation Nicole Guesveler, régisseur de la scène Georges Richard. Adressez tout courrier concernant cette émission à Connaître le cinéma, maison de la RTF, 116 Quai de Passy, Paris 16e.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 février 1964, 3 mois après l'assassinat du président Kennedy, alors que le Quai de Passy allait bientôt changer de nom. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Se fue, dicen que giro como alma en pena, pero en la vida también hay que saber partir. Esta ciudad donde nací no te da tregua ni en la distancia, todo da vueltas de mil maneras, pero ay, no sé partir, volver. Espera, es mi destino sufrir en cualquier lugar. No llores por mí, ni finjas lamentos, la pena es mía. Me ha traicionado, vuelvo a las calles que ayer dejé, pero ay, no sé si alguna vez me ves pasar por una esquina de mi Buenos Aires, será que entonces esta ciudad me perdonó o que también he aprendido.